Well, you go good. Go good. Vous me chien, vous parlez du beau jour? Bonjour, cocotte.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère, le podcast qui célèbre la diversité linguistique et les histoires langagières.
Ma langue maternelle n'est pas la langue maternelle de ma mère.
Alors, dis-tu, on va simplifier tout ça, hein?
Ok. Trouoi. Bah, c'est. Ouais, ma oi.
Je dis, moi, langue locale n'est pas mère langue.
Et en même temps, bah voilà, je le vois qu'avec la génération de mon fils, ça va se couper, quoi. Et il y aura bien, il y aura un moment où il va me dire, ah, je le vois avec les potes dont les parents n'ont pas appris la langue. Il va me dire, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas appris le tétio? Je le sens que ça va arriver, ça.
Je m'appelle Alice Magdelaine. Selon moi, toutes les langues sont dignes d'être transmises, enseignées, apprises, parlées, lues, écrites. Mais choisit-on sa langue? Celle que l'on transmet à ses enfants? Celle qui résonne? Celle qui fait sens? Dans ce podcast, je cherche à saisir le lien intime, à dévoiler le capital affectif que les langues recèlent. Chaque épisode est une rencontre. Les Tétiou représentent en France le groupe le plus important des Chinois d'outre-mer. Originaires d'Asie du Sud-Est, principalement du Cambodge et du Vietnam, ils ont fui les prises de pouvoir communistes des années 70. Au Cambodge, où les Tétiou sont installés depuis le XVIIIe siècle, les Khmers Rouges mènent, entre 1975 et 1979, une révolution brutale, basée sur un régime répressif et collectiviste qui entraîne la mort de 2 millions de Cambodgiens, soit un quart de la population. En 20 ans, 3 millions de personnes fuient la péninsule indochinoise. Dans un contexte de guerre froide et de concurrence entre les blocs, la France accueille 130 000 réfugiés politiques, devenant le deuxième pays d'accueil après les États-Unis. Éminemment plurilingue, le patrimoine langagier des Tétiou reflète leur histoire. Ils maîtrisent souvent d'autres langues chinoises, comme le mandarin ou le cantonais, les langues des pays où ils ont grandi, le khmer, le vietnamien, le lao ou le thaï, les langues de la route, celles de leur parcours de réfugiés passés par la Thaïlande ou encore l'Indonésie, et enfin les langues de leur pays d'accueil. Les parents de Cindy sont tout donnés au Cambodge. De leur identité multiple, qu'ont-ils transmis à leur fille? Et comment envisage-t-elle à son tour la transmission en tant que femme issue de la deuxième génération?
Je suis née à Villepinte et j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, Seine-Saint-Denis, dans la région parisienne. Mon enfance, c'était dans les années 90, quoi.
Quelles sont les langues que tu as entendues dans ton enfance et quelles sont tes langues familiales?
Au niveau familial, mes parents me parlaient en tétiou et j'avais aussi mon arrière-grand-mère qui était là, qui veillait sur nous, qui parlait en hakka et qui parlait aussi tétiou. Et mon père parle beaucoup de langues différentes, il parle aussi le chinois, il y avait le cambodgien aussi, puisque j'ai des oncles et tantes qui parlent khmer, le vietnamien, parce que j'ai une belle grand-mère qui est vietnamienne. Et aussi, le temple de ma famille, c'est des Vietnamiens qui tiennent ce temple. Et puis, il y a des histoires rigolotes. Comme, j'ai le souvenir que j'arrive à l'école. Et en fait, je ne comprends pas le français. Et j'ai l'impression de me retrouver dans un monde parallèle. Où plus personne ne me comprend, alors que j'étais dans le noyau de la famille où on parlait tous tétiou. Et là, la maîtresse, elle se rend compte que je comprends rien du français, alors que ma mère le parle couramment. Et en fait, elle va voir ma mère et puis ma mère a dit « Ah, mais mince, on a oublié de lui parler en français. »
Toi, tes parents, ils ont grandi où ?
Mes parents, ils ont grandi à Phnom Penh, la capitale du Cambodge.
Ils sont arrivés dans quelles circonstances en France ?
Ils sont arrivés parce qu'ils ont fui le génocide des Khmers Rouges, donc le régime des Khmers Rouges. Ma mère, elle était plus petite, elle avait 10 ans. Mais elle se souvient du jour où elle est chez elle. Puis il y a un membre des Khmers Rouges qui arrive armé et qui leur somme de sortir de la maison. Et puis s'ensuit une grosse période d'errance, de travail forcé. Mon père, c'est un peu différent, il était un peu plus âgé. Ils ont fui au Vietnam et au Vietnam, sa mère lui a dit... Il lui a mis une croquette d'or sur le cou et lui a dit « Il n'y a plus d'avenir ici, pars avec ton petit frère pour trouver comment survivre. Enfin, » en tout cas, elle les a poussés à partir et pour aider la famille aussi. Il me semble qu'il avait 16 ans et son petit frère 3 ans de moins. En fait, il a retraversé le Cambodge. Bon, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'ils étaient emprisonnés, ils ont fait du travail forcé, et puis ils sont échappés. Enfin... Et il s'est retrouvé dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Et en général, tu restais de 1 à 3 ans avant de trouver une perspective, d'être reconnu en tant que réfugié et d'aller dans un pays différent. Ils sont restés 3 ans, en fait, ils ont fait la totale avec son petit frère. Ils ont eu la vie dans le camp où ils vendaient des trucs, des babioles, des gadgets. Ensuite, ils ont eu l'opportunité d'aller soit en Australie. Mon père, il hésitait entre l'Australie et la France. Ah ouais, et puis l'histoire, elle est jolie parce qu'il a choisi la France parce que, en Tétiou, la France, c'est Hokok. Ça veut dire pays des droits.
Donc il s'est dit dans le doute, je vais aller dans le pays des droits.
Et quand il est arrivé en France, il s'est dit « Bon, bah, je vais aller à l'école quand même pour apprendre le français, sinon je ne sais pas comment je peux me débrouiller sans parler la langue. » Donc il s'est inscrit en disant 3 ans de moins. Il s'est mis à 16 ans, mais il était quand même trop vieux. Donc il n'a pas été accepté à l'école. Donc il a vendu des cigarettes à Barbès.
Oh, mais dans le métro, quoi.
Parce que les moins de 15 ans étaient intégrés dans un cursus scolaire et les plus de 15 ans, effectivement, ils devaient aller travailler. Ça veut dire que ta maman, elle, elle a intégré un cursus scolaire en arrivant à 10 ans.
Oui, c'est ça. Elle est arrivée, elle était elle a fait un peu de DAS, un an de DAS. Au tout début, je crois qu'ils étaient accueillis dans un couvent, les enfants. Le temps que les parents, ils font leurs papiers, ils se débrouillent et tout... Donc les trois filles, ils étaient un peu à la DAS, au couvent. Et puis ensuite, ils ont retrouvé les parents. Et là, elle est allée à l'école. Et elle a fait, je crois, une sorte de BEP compta, quoi. Jusqu'à ce que ma grand-mère décède, tragiquement, quand elle avait 15 ans. Donc, elle a dû remplacer sa mère au resto. Donc, elle a arrêté ses études pour remplacer sa mère au resto de mon grand-père, qui avait un resto à Opéra. Quand même, à l'époque, dans les années 70. J'ai deux petits frères. Et en fait, en plus, entre moi et mes petits frères, la langue s'est diluée. C'est-à-dire que plus on arrive aux plus petits, et moins ils parlent le tétiou. Moi, je peux le parler encore. Et retrouver le réflexe de le parler. Mon petit frère parle un petit peu, mais pratiquement pas. Et le dernier, il entend. Mais ils ne parlent pas vraiment. C'est particulier. Après, en fait, ils ont rattrapé ça en travaillant dans le resto de mon oncle avec mon père en cuisine. Et là, ils ont retrouvé plus le vocabulaire, des réflexes à parler. Ils l'ont cherché ensuite, en fait. Mais je me rappelle, quand ils étaient petits, ils refusaient ou on refusait. Nous, on se parlait en français, tous les trois. Et puis sinon, le tétiou, c'était avec les adultes, avec la grand-mère, le grand-père, la mère, le père.
Tu dis que ta maman, elle parle couramment français. Tes parents, entre eux, quelle langue ils se parlaient ?
Alors, ils se parlent en tétiou. Mais ce qui est étrange, c'est que ma mère, elle parlait pas vraiment tétiou. C'est que mon père lui a appris. Elle parlait khmer, mais elle a oublié le khmer quand elle est arrivée en France. Donc, je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais bon, voilà. Elle lui a réappris le tétiou parce qu'elle est aussi tétiou. Et dans la famille, en général, les fêtes de famille, on se parle en tétiou.
Si tu devais expliquer à quelqu'un ce qu'est le tétiou, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette langue, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Alors, je lui dirais que c'est un dialecte dont la racine vient de Chine du Sud. Il y a une ville apparemment qui s'appelle Tétiou, qui est une toute petite ville, mais bon, où il y a déjà quelques millions d'habitants en fait. Et c'est une langue ensuite qui a été parlée après en Asie du Sud-Est parce que beaucoup de personnes de Chine du Sud ont dû émigrer en Asie du Sud-Est pour différentes raisons. Que ce soit par le commerce, que ce soit lié à l'opium. Et il y en a, il y a des tétiou autant au Laos, au Vietnam, qu'au Cambodge, qu'en Thaïlande. Et après, il y a une diaspora en fait. Et suite à l'histoire des Khmers rouges, et notamment peut-être la guerre du Vietnam, il y en a aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe et aux États-Unis. C'est une langue où la grammaire est très facile. Il n'y a pas de passé, présent, participe, passé, de choses comme ça. C'est sujet, verbe, complément. Par exemple, je mange du riz. Tu ne vas pas avoir du, tu n'as pas de... Donc c'est je mange riz, quoi. Ou tiapeng. Par contre, toute la difficulté, principalement pour les Français, c'est de trouver le bon ton. Parce que tu peux pas dire, comme les mots en français, tu peux les dire aigu, grave, il sera toujours compris pareil. Si tu dis « je mange du pain » ou « je mange du pain », c'est pareil. Mais si tu dis « outiapeng », tu dis autre chose. Tu dis « personne ne va te comprendre ». Tu dois vraiment dire « outiapeng ». Et ça correspond à un ton. Il y a 8 tons, ouais. Et selon le ton, une syllabe va signifier différentes choses, quoi. Maman, c'est maman. Ma, c'est cheveux. Mais, c'est aller vite. Et c'est pas forcément facile, c'est assez subtil quand même. C'est vraiment très différent. Mais quand j'essaye de faire parler des amis, c'est trop compliqué de s'ajuster sur le ton. Ça marche avec des gens qui ont une oreille musicale. Là, ils captent qu'en fait, il y a des tons différents, une manière de positionner la langue et les lèvres. Mais sinon, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne disent pas bien. Parce que le ton définit le sens. Oui, c'est une musique. C'est de base une musique. Et moi qui chante et qui fais de la musique, j'ai envie un peu d'écrire des chansons, des choses comme ça. Et je voulais écrire des chansons avec du tétiou dedans. Et en fait, je commence à essayer des... En fait, t'essayes de mettre la langue dans le chant, mais c'est un peu une prise d'aïkido, quoi. C'est quand même compliqué. Il faut garder la même structure dans les différences d'auteurs de son dans une mélodie. Et en fait, ça, c'est là que je me suis rendu compte que c'était assez subtil. Le moment où tu comprends la langue, le moment où tu comprends plus la langue, si tu la chantes, c'est pour ça que les chants en tétiou, c'est assez complexe. Enfin, j'ai pas trouvé énormément de polyphonie. Les chansons en tétiou, c'est un peu du rap, en fait. C'est un peu du parler-chanter. Je regardais les polyphonies bulgares, ukrainiennes, slaves. En fait, quand même, c'est à chaque fois des langues où on peut avoir des libertés sur le ton, quoi. La langue asiatique, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, la langue, elle façonne la mélodie déjà d'une certaine manière. Et c'est pour ça que ça paraît tellement... Enfin, pour les Occidentaux, la musique d'Asie du Sud, c'est une expérience quand même. Hein.
Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu parles tétiou ?
C'est une langue qui vient plus du profond. Apparemment, je parle plus fort. Ça, c'est quand je suis avec mes parents. Apparemment, j'ai une voix plus aiguë, je parle plus fort. Et un truc un peu plus franc, brut, ouais, droit au but. Et en même temps, il y a quelque chose de très... Il y a des images, en fait, qui me viennent. Quand mon père, il me dit, arrête de regarder ça, tu vas voir les yeux rouges. Le Marc Pinter, Et je comprends direct, en fait. C'est tes yeux rouges, tes yeux vont devenir rouges. Ben, ouais, c'est parce que tu regardes trop la télé ou t'es trop sur ton livre ou c'est pas des images... Pour les enfants, il faut pas regarder ça, tu vas avoir les yeux rouges, quoi. Et c'est tout de suite, c'est hyper parlant, je trouve. Après, il y a des trucs un peu absurdes, comme des noms affectueux. Ma grand-mère, elle nous appelait Ciao Cao. Les chiens sales. C'est hyper affectueux. Mais en français, ça marche pas du tout. Je voulais trouver aussi un truc positif, mais je trouve que des trucs... Par exemple, borrowing. C'est vraiment tu sers à rien. Et borrowing, ça veut dire tu n'as pas de rue où aller, à emprunter. Mais souvent, c'est dit de manière hyper drôle. C'est un humour assez, assez bourru. Ah ouais, là, ouais, ça prend le sens de l'autodérision. Il y a... Mianti, que j'étais ado à la française et que je venais, je mangeais, je repartais. Il m'appelait Tia Mianti, ça veut dire elle mange sans argent. Et c'est une expression assez directe. Tia Mianti. Et il y avait un autre pour dire que tu manges bien, Peng Tang. C'est-à-dire que t'es une bassine de riz, quoi. En fait, les expressions plus positives, elles sont souvent liées à la nourriture. Quand tu vas saluer quelqu'un, tu vas pas dire « Bon, salut, ça va ?» Tu vas dire « T'as déjà mangé ?»« T'as déjà mangé du riz ?» C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un, tu vas « Ah !» Si c'est quelqu'un de la famille, tu vas l'appeler par rapport à son rang dans la famille, à I, à Tchèque, à Titi, Coco, Moui Moui. Et après, tu vas dire « Le tiapeng. Tiapeng ha va ?» Tu vas dire, est-ce que t'as déjà mangé du riz? Mais ça veut dire, est-ce que t'as déjà mangé? Et dans l'idée, ben, il faut toujours avoir quelque chose de prêt pour que quelqu'un qui va débarquer et qui aura faim, quoi. Je me rappelle, mes copains à l'école, ils adoraient venir au resto. Ben, parce qu'il y avait toujours de la bouffe prête. C'était incroyable pour eux. Et souvent, en plus, tu vois, si c'était des familles où ben, les parents ne cuisinaient pas trop, et donc ils étaient trop contents, ils venaient. Et moi, je pouvais inviter, je sais pas, 10 copains. Et là, mon père, il se mettait à faire à manger pour 10 personnes. Et c'est normal.
Quels sont les préjugés, les discours sur le tétiou?
Les anciens, ils te disent, oui, il faut absolument que tu apprennes le chinois pour pouvoir parler à encore plus de monde. Le tétiou, ça sert à rien. Moi, j'étais là, je dis, ben, vas-y, on se parle en tétiou, comme ça, moi, j'entretiens la langue et je l'oublie pas. J'ai une image de mes oncles, de mon père, qui me disent, mais non, mais apprends le mandarin plutôt. Là, le tétiou, ça sert à rien. Et en fait, j'ai pas appris le mandarin. Et maintenant, voilà, je suis dans la Drôme, là-bas, trouver un tétiou.
T'ont élevé en tétiou? Et il t'explique que vaut mieux que t'apprennes le mandarin, parce que c'est un peu aussi étonnant de leur part.
Ouais, c'est étonnant. Et en plus, ça n'a pas créé une envie pour moi de le passer à mon fils aussi. Bah, parce que je trouve ça compliqué d'être tout seul comme ça, au milieu d'un endroit où j'ai pas un tissu social lié au tétiou, quoi. Surtout que quand je parle à mon fils en tétiou, je le fais de manière un peu artificielle. Et lui, il n'aime pas parce qu'il ne comprend pas bien. Mais par contre, il accepte quand je suis dans ma famille et que je parle tétiou avec mes parents. Là, il accepte, quoi. Mais je le vois qu'avec la génération de mon fils, ça va se couper, quoi. Il y aura un moment où il va me dire... Ah, je le vois avec les potes dont les parents n'ont pas appris la langue. Il va me dire, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas appris le tétiou? Je le sens que ça va arriver, ça. Je me dis, bon, voilà, je lui parle un tout petit peu. Parce que je me sens pas non plus hyper légitime. parce que je suis pas non plus sûre de mon tétiou. C'est un peu étrange, mais voilà, c'est ma langue d'enfant, mais tu vois, je sais, quand je suis allée au Vietnam voir ma grand-mère, je m'en rendais bien compte que je parlais un tétiou d'enfant. Et que je pouvais pas avoir des conversations développées parce que je n'avais pas appris d'autres vocabulaires, quoi. Il s'appelle Sovan et il a 5 ans. Sovan, c'est un prénom khmer. Honnêtement, j'adore les prénoms des poilus là, sur les monuments morts. Non, le papa n'était pas du tout d'accord. Il voulait un prénom khmer. Enfin, en tout cas, de consonance asiatique. Et moi, je lui dis, mais je ne vais pas lui donner un prénom qu'aucun Français ne réussira à bien prononcer. Et en fait, j'ai trouvé Sovan à un moment, qui veut dire comme de l'or ou or. Je trouvais ça joli et facile à prononcer. Et donc voilà, ça a été, c'est ça qui a fait l'unanimité.
Le fait que tu ne transmettes pas spécialement ta langue familiale à ton fils, est-ce que tu sais ce qu'en pensent tes parents ?
Ils se disent que c'est logique, parce que voilà, il est ici, son papa il est français. Et à la fois, ouais, je pense que ça ne doit pas être facile, quoi. Mais de toute manière, je pense que mon père, il a fait le deuil quand il a compris que ses enfants, ils n'allaient pas forcément se mettre avec des tétiou. On a choisi des personnes d'un autre pays, donc d'une autre culture, donc n'a pas forcément entretenir le noyau de la langue, quoi. Après, bon, voilà, moi, je vais passer des choses. Et puis peut-être, je me dis que peut-être qu'un jour, il aura l'appétence. Et quand il aura l'appétence, moi, je serai là. Je serai là pour lui... Pas pour lui dire avec le peu de ce que je me souviens. Parce que, en fait, voilà, une langue, si tu la... Tu trouves pas d'interlocuteur, hein, elle meurt aussi, quoi. Donc, c'est le jeu d'équilibre à trouver.
Et est-ce que ça passe aussi par les histoires, les contes ?
Il y a sûrement des contes, mais je les connais pas. Enfin, franchement... Le coup de lire une histoire avant de dormir, moi, j'ai jamais connu ça. Quand mon compagnon m'a dit « Mais oui, mais c'est comme ça qu'on fait en France, on lit une histoire avant de dormir », je dis « Mais non, on pose l'enfant, il dort, puis c'est tout ». Il y a des comptines, des belles comptines, des berceuses, que j'ai beaucoup chanté à Sovan. Il y en a une qui me vient. « En, 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 en meng pai, en a bébé, toi, toi, kai. En, en, en kim sai, en meng pai, en a bébé, toi, toi, kai. Et en plus, bébé, je pense que c'est bébé français. C'est des trucs mélangés. Mais bon, ça veut dire je te berce en Kimsaï, je te berce lion d'or, je te berce, tu demandes ton chemin, je te berce pour que tu deviennes grand. Ça, c'est des petits trucs que je lui ai passés, tu vois, des petits trucs comme ça. Et je vois comme c'est important aussi que ça passe dans la par là, les chansons, les histoires. Mais sinon, le tétiou, là, dans mon quotidien, c'est plus des fois, j'ai des images dans ma tête, et un peu poétiques, et j'essaie de les décrire dans des langues différentes, dont le tétiou. Il y a un dictionnaire qui s'appelle « What tétiou say ?». Il me semble que c'est des Américains, des tétiou américains, qui ont fait tout un dictionnaire. Et en fait, ça a été développé par des tétiou en France, avec tout un dictionnaire. Ouais, c'est super.
Alors là, on voit plusieurs écritures.
T'as le français, t'as la prononciation en alphabet latin, avec des numéros qui correspondent au ton. Et puis ensuite, écriture chinoise. Parce que le tétiou, il est écrit en chinois, en fait. Enfin, en mandarin. Mais bon, moi, j'ai pas appris ça. Donc, mais ça, j'aimerais bien, par contre. Apprendre à faire de la calligraphie, les idéogrammes, parce que... Ça crée toute une forme de pensée, en fait. Et me connecter à ça, ça pourrait être intéressant, je pense. Bon, heureusement que sur WhatsApp, quand je parle avec la famille, je me fais des vocales. Mais mon père, quand il écrit, à la famille, il écrit en chinois. Donc je ne peux pas le lire. Donc je suis obligée de le mettre sur Google Translate pour le traduire.
À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle méconnaissance, alors qu'apparemment c'est une des plus grandes communautés chinoises en France, que c'est la communauté Tetsu?
Je pense que ce que je te dirais, ce serait plutôt des projections, ce ne sera pas des choses qui seront étudiées. Je n'ai pas lu énormément d'articles là-dessus d'ailleurs. En fait, ça n'a pas été beaucoup étudié quand j'ai cherché à un moment. Moi, je pense que ce serait lié à la discrétion et puis que ce soit en fait une affaire de famille. Et c'est aussi peut-être lié au trauma de la guerre. Il y a un peu un truc de... On arrive dans un autre pays et on va se protéger en fait. Et on va rester secret et discret pour pas faire de vagues, pour pas revivre ce qu'on a vécu. Dans ma famille, c'est ce que je sens en tout cas. Et je pense à Ritipan, là où j'ai eu des éléments liés aux histoires qu'ont vécu ma famille, c'est des documentaires et des performances que j'ai vues de Ritipan. Heureusement que lui, il est là et qu'il qui fait le boulot, parce qu'il n'y en a pas énormément en fait. Il n'y a pas beaucoup d'éléments quoi. Mais lui, il est Khmer, je ne crois pas qu'il soit têtu. Ouais. Donc, j'ai pas un miroir culturel lié au Tétio, quoi. C'est que familial. J'ai vraiment pas trouvé, mais peut-être qu'à partir du moment où je le dis, on va me dire « Mais non, il existe un poète Tétio !» Mais je n'ai pas trouvé, moi, de référence comme ça, littéraire Tétio. On m'en a jamais parlé, en tout cas.
Est-ce qu'on peut dire que le Tétio, c'est une langue de l'exil ?
Ah ouais, totalement, ouais. En fait, maintenant, c'est les diasporas. Il y a plein de gens comme moi qui se sentent un peu déracinés et qui essayent, justement, par rapport à ces dictionnaires. J'avais soutenu le film d'un réalisateur tétio, qui avait fait un film tout en tétio. Donc, des gens qui veulent reconnecter avec leurs racines et qui veulent reparler cette langue. Et j'ai trouvé ça super qu'il y ait un film dans cette langue-là. En fait, c'est pas... Il y a quand même du monde qui partage cette culture-là. Et qu'en fait, c'est important de l'entretenir, la garder présente à l'intérieur de soi et puis interagir. Ben, c'est important de connaître ses racines, quoi.
Est-ce que tu peux te présenter en tétio ?
Ben là, je me rends compte que je n'ai jamais fait ça. Je ne me suis jamais présentée en tétio. Oka, c'est Cindy... Ok, ta hakak, ta drum, ou chakang ta bu, ou chai dessiné, ou ta oui, ou chakang ou ta oui. C'est bon. Je m'appelle Cindy Lau, je suis artiste, je travaille dans le dessin et je vis en France, dans la Drôme.
Un très grand merci à Cindy pour son témoignage. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre. Et d'ici là, comme on dit en tétio, bye bye.